Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre. Merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est l'émission Philosophie au présent. Voilà, nous avons aujourd'hui comme invité Laurent Bazin, qui est anthropologue, chercheur au CNRS. Et vous avez déjà entendu Laurent Bazin parce que nous avons fait déjà une émission autour de l'association qu'il a cofondée avec Moha, qui s'appelle l'association Le Paria. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour. Alors un petit salut amical à Isabelle Raviolo qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes à deux voix, Nathalie Perrin, moi-même et Isabelle Raviolo. Voilà, on lui fait un petit coucou. Elle travaille, elle n'a pas pu se joindre à nous. Et puis avant de commencer, je voulais remercier les techniciens qui s'occupent de l'émission aujourd'hui, de nous enregistrer, de voir si on ne fait pas de bêtises. Il y a donc Lucas, Tanguy et Geoffroy qui sont à la technique. Nous les remercions chaleureusement d'être là et de s'occuper du fonctionnement de l'émission. Alors voilà, aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette émission thématique qu'on avait intitulée, enfin autour de l'association Le Paria, se défendre ou s'émanciper. Donc aujourd'hui c'est se défendre, s'émanciper de. Et on continue notre réflexion autour de cette association qui défend, qui dénonce de manière théorique, mais aussi par des actions pratiques, toutes les injustices qui sont faites aux parias de nos sociétés actuelles, de la société française, les sans-papiers, les gens de couleur. Souvent, ça va ensemble. Bref, tous les expulsés de cette société que l'on dit du progrès en marche vers le bonheur absolu. Hein. Donc le paria, c'est ça. C'est cette idée d'une défense active et théorique qui croise plusieurs champs de savoir, n'est-ce pas, Laurent ?
Tout à fait, oui. Et lorsque l'on a créé avec Moha cette association en 2017, c'était aussi le paria, le choix de cet intitulé. C'était en référence à la situation de Moha qui est... et puis du travail qu'on fait ensemble tous les deux, du travail d'écriture dont on a déjà parlé, mais dont on va reparler un peu plus précisément dans l'émission aujourd'hui.
Oui.
Et donc cette situation d'exclusion, voire d'exclusion radicale, puisque Moha a été expulsé en 2012 vers l'Algérie, puisqu'il a la nationalité algérienne. C'est donc une manière de travailler. Donc on a commencé cette écriture d'un livre ensemble pour autour de son histoire, de l'histoire de sa vie, donc qu'il raconte, pour non pas simplement parler de sa propre vie, mais sa propre vie est tout à fait emblématique en fait de ce qui se passe dans la société aujourd'hui et de tous les mécanismes d'exclusion qui se produisent en fait à travers le fonctionnement institutionnel et puis bon l'ensemble des lois, de la politique, etc., mais aussi tout le fonctionnement institutionnel de l'État français.
Oui. Alors on va revenir donc sur l'écriture de votre ouvrage en commun qui s'appelle Le Retour du Refoulé. Vous êtes là en train de l'achever. Les auditeurs vont être ravis parce qu'on va faire écouter des extraits de deux chapitres écrits par Moha et par toi, Laurent. Alors un petit peu pour expliciter le déroulé de l'émission aux auditeurs, il y aura deux parties dans cette émission. Une première partie qui va être consacrée évidemment à une écriture, à votre écriture comme combat, et puis une seconde partie qu'on va placer sous le signe d'un chapitre que vous avez écrit dans Le Retour du Refoulé qui s'appelle Le Casseur de Mâchoire. Mais tout d'abord, expliquons Laurent Bazin à nos auditeurs comment ça se fait que le cofondateur de l'association Le Paria, dont tu viens de nous parler à l'instant, n'est pas avec nous aujourd'hui. La dernière fois, les auditeurs se souviennent qu'on l'avait enregistré et il n'avait pas pu être là parce qu'il travaillait. Mais là, cette fois-ci, pourquoi n'est-il pas avec nous ce cher Mora, ton ami et cofondateur de l'association Le Paria ?
Alors, Mora n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il est en prison. Il est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis le 29 mars. Et donc, nous n'avions pas prévu, évidemment, cette incarcération. Et donc, Mora ne peut pas être là aujourd'hui. Je l'ai au téléphone quasiment tous les jours. Aujourd'hui, on a la possibilité de téléphoner dans les prisons. Et donc, il a la possibilité de me téléphoner. Et nous avons discuté de la préparation de cette émission ensemble. Il est d'accord avec la programmation qu'on a choisie, notamment autour de la lecture de nos textes. Alors, pourquoi est-ce que Mohan est en prison ?
Oui, parce que, bon, on va... On protège aussi un petit peu le secret, on va pas tout dire parce qu'il ne s'agit pas de le mettre en mauvaise posture, mais est-ce qu'on peut peut-être faire un point du déroulé récent de ce qui se passe, puisque c'est l'occasion dans cette émission aussi de partager la manière dont un étranger est traité sur le territoire français sous de fausses accusations, sans preuve, comment il peut être enfermé, hein, puisque c'est...
Alors, tout a commencé, en fait, le 5 mars 2018, et donc son incarcération aujourd'hui est une conséquence de ça. Le 5 mars 2018, je pense qu'on avait eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente ici sur Radio Aligre. Le 5 mars 2018, Mora a été violemment interpellé à la gare du Nord par une équipe de policiers qui l'ont tabassé, qui l'ont insulté, des insultes racistes, sale arabe, etc. Le soir même, il s'est fait, alors qu'il n'avait rien fait, il était simplement sur le parvis de la gare du Nord en train de discuter et de fumer une cigarette avec quelqu'un, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est quelqu'un qu'il connaissait, une connaissance de prison, puisque Mora a passé une partie de sa jeunesse en prison, la moitié de sa vie de 19 ans à 30 ans, on va dire, il l'a passé en prison. Donc effectivement, les gens qui sont dans cette situation-là ont des relations, en fait, ont des relations qu'ils ont connues en prison, oui. Des connaissances de prison, et comme par hasard... la gare du Nord, qui est la gare qui dessert toute la banlieue nord-est de Paris, tout le 93 en particulier, c'est la gare où se croisent tous les gens qui viennent de banlieue, etc. Ouais. Donc, Mora avait simplement croisé quelqu'un qu'il avait rencontré en prison. Il fumait une cigarette devant le parvis de la gare du Nord. Une équipe des flics sont arrivés pour le contrôler. Mora se fait contrôler extrêmement souvent. C'est quelqu'un qui est ciblé complètement par la police.
Évidemment, parce que c'est le contrôle au faciès. Hein.
Voilà, on parle de contrôle au faciès, mais ce qu'on oublie toujours de dire dans ces questions de contrôle au faciès, c'est que c'est pas simplement une petite incommodité, un petit dérangement, etc.
Non, pas du tout.
Quand on se fait contrôler plusieurs fois par jour, dès qu'on sort de chez soi, en fait, c'est-à-dire dès qu'on prend le RER, dès qu'on franchit en fait les portes de Paris, qu'on arrive à Gare du Nord, qu'on arrive au Halles ou qu'on arrive à Saint-Michel. Il y a tout ce dispositif en fait de patrouillage, de quadrillage policier de la ville, en fait, et qui contribue finalement à déclarer tout simplement, c'est plus que déclarer, parce que c'est dans les actes à faire des gens en fait des indésirables. Donc on va les contrôler, on les contrôle en permanence, mais tous les contrôles, chaque contrôle en fait est un moment dangereux où tout peut basculer à tout moment. Une personne qui est contrôlée comme ça systématiquement par la police, alors je ne dis pas tous les policiers, mais ce que dit Mora d'ailleurs parfaitement, et c'est aussi écrit...
Oui, ce qu'il nous a dit la dernière fois de toute façon.
C'est aussi écrit dans notre livre. Dans une patrouille de 5 policiers, par exemple à la gare du Nord, il y en a toujours un raciste qui va essayer de provoquer, etc.
Ouais, un peu de bulldog, quoi.
Etc.
Ouais.
Et puis, ceux qui ne sont pas racistes, il y en a un ou deux qui restent en retrait, mais qui d'une certaine façon ne s'interposent pas.
Ouais.
Donc Voilà ce qui s'est passé. Moha a vu les policiers arriver pour un contrôle. Il en a marre d'être contrôlé en permanence. Il s'est simplement éloigné. Et les policiers lui sont tombés dessus violemment, l'ont étranglé, l'ont fait tomber sur le sol, l'ont gazé avec du gaz lacrymogène à 3 cm de son nez. En plein Gare du Nord, sur le parvis. Ils l'ont tabassé, ils l'ont insulté. Ils l'ont embarqué au commissariat de police du 4e et dans la même soirée, pendant qu'il était en garde à vue, il a été tabassé par une autre équipe de police. C'est lui qui a été poursuivi par les policiers pour outrage, rébellion, menace de mort.
Alors qu'il a été frappé en plein lieu public, dans une gare, puis après, dans le commissariat du 4e, il nous en avait parlé déjà la dernière fois.
Il est passé, lui a porté plainte contre les policiers, mais sa plainte n'a jamais abouti. Les policiers ont porté plainte contre lui. Il est passé au tribunal le 2 juillet 2018. Et là, heureusement, nous étions un certain nombre à venir le soutenir. Et donc le juge lui a donné une peine de 5 mois de prison avec sursis, effectuable sous forme de 170 heures de travaux d'intérêt général.
Voilà, donc là, on est sur les travaux d'intérêt généraux et qui sont finalement les déclencheurs de l'actuelle mise en prison de Moha.
Absolument. Dès que Moha a été condamné à des travaux d'intérêt général, nous avons cherché ensemble une association qui puisse l'accueillir pour faire ses 170 heures de travaux d'intérêt général.
Et moi, tu m'en avais parlé parce que comme je suis professeur de philosophie, tu m'avais contacté en me disant, Nathalie, est-ce que tu pourrais pas mener un projet avec Moha dans le cadre d'un lycée ou dans le cadre de l'université, puisque je suis aussi chargée de cours. Donc, je peux aussi moi-même certifier, mais je l'ai fait devant, voilà, avec une attestation, mais que tu m'avais contacté pour cet effet-là. Donc, on était tous en train de chercher un moyen de remplir cette condition sine qua non pour que Moha soit tranquille.
Absolument. Et donc, on a d'abord cherché, en fait, comme Moha est cuisinier et qu'il participait à des actions de confection de repas et de distribution de repas envers les exilés, les SDF, etc. On a d'abord cherché s'il y avait une association qui était susceptible de l'accueillir comme cuisinier, en fait, ou pour faire des distributions de repas. Et le SPIP, c'est-à-dire le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui sont chargés, en fait, de suivre les personnes qui sont condamnées et notamment de leur attribuer, de leur trouver un lieu d'accueil pour les travaux d'intérêt général. Le SPIP n'a pas donné suite aux différentes propositions qu'on a faites. Devant ça, devant l'inertie en fait du SPIP, j'ai proposé, moi, donc j'ai pris relation avec toi, comme tu le rappelais à ce moment-là, j'ai pris relation avec la direction de mon laboratoire universitaire, qui m'a donné son accord. Et donc j'ai écrit au SPIP en lui proposant d'accueillir Moha pour ses travaux d'intérêt général dans le laboratoire universitaire, en lui confiant un certain programme, un certain nombre de tâches, donc qui était à la fois une formation. L'idée, c'était à la fois de le former en continuité en fait avec ce qu'on fait tous les deux depuis 5 ans. Et puis aussi d'élaborer en fait un programme de prévention de la délinquance en direction des lycées.
Oui, c'est pour ça que tu m'avais contacté.
Voilà, d'université, voilà.
Tout à fait. C'est pour ça que tu m'avais contacté et qu'on avait mené ensemble une réflexion en direction du jeune public pour la prévention de la délinquance.
Tout à fait. Et donc ça permettait, c'est exactement en fait, ça correspond exactement au type de mission, qui est défini dans les textes de loi pour les travaux d'intérêt général. Et donc voilà, l'idée c'était ça, etc. Je n'ai jamais reçu aucune réponse en fait à mon courrier, qui était un courrier officiel. Et les directeurs de mon laboratoire étaient prêts à rencontrer le SPIP, c'était indiqué dans ma lettre, pour pouvoir mettre en place une convention avec l'université. C'était l'université de Paris.
Ouais. Et donc là, là qu'est-ce que, donc de cela va découler actuellement l'enfermement de Maura.
Exactement.
Est-ce que tu peux, voilà.
C'est-à-dire qu'on lui reproche maintenant, en fait, de ne pas avoir fait ses 170 heures de travaux d'intérêt général, et donc on le met en prison parce que c'était, il avait eu 18 mois pour faire ses 170 heures de travaux d'intérêt général. Et ou bien c'était 5 mois de prison. Donc ils l'ont mis en prison pour ça.
Donc on dit, on ose dire aujourd'hui que le SPIP n'a pas fait son boulot. Nous disons officiellement que Maura est soutenu par un dossier considérable d'attestation. Je crois, j'ai entendu le chiffre de 63, hein, c'est ça hein,
63 c'est... pages.
63
oui.
pages de dossier avec des attestations. Maura est attendu avec un travail, un CDD. N'est-ce pas
hein? Alors, Maura vient de décrocher. Maura, il galère depuis des années.
Oui, et il bosse. Il est dans, et en plus,
il arrive
il bosse.
Pas, et donc, dans la période actuelle, il est cuisinier. Il n'arrive pas à trouver travail. Il a travaillé en EHPAD pendant le premier confinement. Pendant ouais. toute la durée de premier confinement, il a travaillé dans la cuisine d'un EHPAD. Ensuite, il n'a plus retrouvé de travail parce que le secteur de la restauration est complètement sinistré
ouais,
aujourd'hui.
Ouais, c'est très dur.
Donc, depuis le mois de novembre, Maura se dépense sans compter, en fait, pour l'association Les Repas Solidaires du 20e arrondissement, qui se déroule à la Flèche d'Or. Il est présent tous les jours.
Il travaille gratuitement.
Il travaille gratuitement, bénévolement. Ouais. Ces 5 derniers mois, il a fait au moins 700 heures de travail bénévole. Au moins 700 heures dans les 6 derniers mois. Et il vient de décrocher un contrat de travail dans une association qui s'appelle le Campus de la Transition, pour transition écologique, qui est en Seine-et-Marne. Et c'est exactement à ce moment, alors qu'il vient de faire 700 heures de travail bénévole au service de l'intérêt général, au service des plus démunis, au service de la société en général, et qu'il vient de décrocher un contrat de travail, qu'on le replace en prison. Et la décision est totalement scandaleuse. Ça fait un mois qu'il est en prison. Son avocat vient seulement hier d'avoir accès à la décision de placement en prison, les décisions du juge d'application des peines.
Absolument.
Ça fait un mois qu'on galère, qu'on n'arrive pas à mettre la main sur cette décision. Maura, jusqu'à présent, depuis sa prison, il peut me téléphoner à moi. Il n'a pas le droit de téléphoner à son avocat. On l'empêche complètement de se défendre.
C'est un véritable scandale. Si les personnes qui nous écoutent ont encore des doutes sur une justice à deux vitesses pour un Français et quelqu'un qui est d'origine étrangère, et pas n'importe quel étranger, c'est pas un Suédois ni un Norvégien, c'est un Algérien, donc ça pose toujours problème. Si là, les gens avaient encore des doutes avec ce genre de témoignage, effectivement, Maura est resté pendant un mois sans pouvoir parler à son avocat. C'est quand même quelque chose de scandaleux qui n'est pas censé arriver dans un pays qu'on dit pays des droits de l'homme.
Hein? Il avait 10 jours pour faire appel à partir du moment où il a été incarcéré. Sauf qu'il n'avait pas le droit de parler à son avocat. Et il ne pouvait pas avoir accès à la décision qu'il avait mis en prison. Comment est-ce qu'on peut faire appel? Comment est-ce qu'on peut contester une décision qu'on n'a pas et sans avoir accès à son avocat? Donc on voit bien en fait tout le déroulement à travers ça, mais je veux dire dans l'histoire, dans le récit de sa vie que l'on fait ensemble, c'est pas la première fois que ça se produit en fait. Mais on voit très très bien en fait comment ça fonctionne en fait, comment fonctionnent les institutions et les unes se renvoient, les unes sont épaulées par les autres si
oui,
tu
oui.
veux. On voit très bien comment tout cet enchaînement en fait des décisions etc. et qui est un fonctionnement totalement bureaucratique.
Absolument.
Qui est un fonctionnement totalement bureaucratique, on voit bien comment ça consiste en fait à rendre, à priver les gens de la possibilité en fait de se défendre. Le droit de la défense n'existe concrètement pas pour des personnes comme Maura, qui, c'est vrai, il a un casier judiciaire très chargé, il a fait de la prison dans sa jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce genre de personne n'est pas considéré comme ayant quelque chose à dire pour se défendre.
Tout à fait. Il a un casier judiciaire chargé. Certes, il a tué personne. Il est quand même victime en premier lieu d'une politique française qui n'est absolument pas accueillante aux étrangers, on le sait. Et la relation de la France et de l'Algérie, ça reste quand même toujours problématique avec... avec la population algérienne sur notre territoire. Alors voilà, on voulait préciser aux auditeurs pourquoi le cofondateur de l'association Le Paria n'est pas avec nous. On l'embrasse, on espère qu'il va pouvoir écouter l'émission. Et voilà, on espère réveiller un peu les consciences des gens. On vous invite évidemment à consulter l'association Le Paria et vous verrez que Moha écrit, et on va vous faire entendre ce qu'il a écrit avec Laurent Bazin dans leur livre Le Retour du Refoulé. Alors, on passe maintenant à ce second moment de notre première partie sur justement l'écriture de votre ouvrage Le Retour du Refoulé, une écriture comme arme de combat, j'annonçais en début, une écriture à deux. Est-ce que tu peux, Laurent, nous parler un petit peu de ce process d'écriture, non seulement comment il fonctionne, et aussi peut-être pour revenir autour de cette idée que l'écriture, c'est pour Moha et pour toi-même, l'écriture d'un processus de subjectivation.
Tout à fait. Donc nous avons commencé à écrire au début. L'idée d'écrire ce livre, c'était en fait que Moha raconte sa vie. Et d'une certaine manière, à travers le récit qu'il fait de sa vie, il pouvait à la fois retrouver une certaine fierté de lui-même.
Bien sûr.
Alors que, toutes les institutions n'arrêtent pas de lui signifier finalement qu'il
n'est rien.
Qu'il n'est rien.
Et nous sommes très polis.
Et nous sommes très polis. Et donc, c'était ça. Et c'était aussi, en fait, une forme une arme de combat, effectivement, au début, dans l'idée de qu'il récupère les droits au séjour en France dont il avait été spolié injustement. Mmh. Et effectivement, il les a récupérés. Mais donc le processus, c'est que donc Moha raconte, voilà comment on écrit, hein, Moha raconte, moi je l'enregistre, ensuite je transcris ses paroles, et donc il raconte des scènes de sa vie en fait. Mmh. Et ces scènes, ensuite, moi j'ai à la fois un travail de faire passer le langage oral sous forme écrite,
ouais.
Donc un travail d'écriture, de mise en forme, on va dire. Et puis, c'est tout un travail de montage, en quelque sorte. On a appelé ça, à un moment donné, une écriture puzzle, parce que c'est plein de petits morceaux, de petites scènes, en fait, et qu'il faut, comme un monteur au cinéma, en fait, reconstruire un fil pour donner une cohérence, pour construire une intrigue, pour construire un récit véritable. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on procède.
Et alors...
Évidemment, on retravaille ensemble l'écriture, on le relit ensemble, on le corrige ensemble, etc. Donc c'est vraiment un travail de collaboration très étroite, en fait, entre nous.
Voilà. Et alors, ça a fait passer Moha dans le champ de l'écriture et dans le champ d'être un auteur et un penseur, un intellectuel à part entière. Il nous avait dit la dernière fois, quand on l'avait enregistré, à quel point... Pour lui, l'essentiel était d'ouvrir sa gueule, de ne jamais se taire face aux injustices. Ça commence par lui-même et à partir de lui-même et de cette collaboration que vous avez dans l'écriture, finalement, vous en venez, à travers une histoire singulière, à porter un écrit qui peut parler à tous ceux, les parias, à tous ceux qui sont mis à l'écart du système, qu'on minore dans leur singularité, dans leur humanité.
Absolument. Et parce que effectivement, à travers toute l'histoire de Moha a eu une enfance de réfugié en Allemagne. Donc il a été pendant 8 ans dans des 7 centres d'hébergement quand il était enfant. Il est arrivé en France à l'âge de 15 ans, il a été placé, séparé de ses parents et placé dans des foyers pour mineurs. Et c'est là où il a commencé à basculer dans la délinquance. Donc ensuite, c'est tout le cycle des rapports avec la police, judiciaire, l'institution pénitentiaire, les SPIP, qui le mettent en prison aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est tout un ensemble, toute sa vie a été marquée en fait par le fait qu'il soit sous l'emprise des institutions. Et il y est toujours. Il y est toujours aujourd'hui. Il est complètement ce type de catégorie sociale, on va dire, et totalement, en fait, sous l'emprise des institutions.
Broyé par les institutions. Parce que même quand il essaie de s'en sortir, même quand il donne tous les gages, et c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, tous les gages d'une sortie du tunnel, c'est à ce moment-là que la prison le reprend, que tous les systèmes institutionnels qui s'appliquent à des gens qui n'ont pas la nationalité française et qui sont particulièrement algériens, avec tout ce que ça veut dire de le rapport que la France entretient avec le peuple algérien sur le territoire français, c'est à ce moment-là où il est prêt à s'en sortir qu'on l'enferme de nouveau.
Absolument. Absolument, parce qu'on voit bien, c'est ça que montre son récit. Et c'est pour ça que son récit, c'est pas simplement le récit de la vie d'une personne.
Oui, c'est
mais
universel.
C'est quelque chose d'universel.
Complètement.
Parce que tout ce que montre son récit, c'est comment toutes les institutions ont pour objet, en fait, de construire un rapport de domination et de reproduire ce rapport de domination. Donc, le fait qu'il soit étranger est évidemment quelque chose d'important, qu'il soit algérien en plus, est quelque chose d'important et qui va renforcer la chose. Mais ce n'est pas le seul aspect, en fait. C'est aussi toutes les catégories sociales défavorisées, celles qu'on place dans les ghettos de banlieue, etc. Donc, c'est en fait un rapport de domination qui se construit à travers les institutions. Et notre récit montre comment, en fait, ce rapport de domination se bâtit, en fait, dans le jeu de toutes les institutions qui, chacune, ajoute, en fait, articule son action avec celle des autres. Oui. En fait, c'est ça qui se passe.
Alors, Laurent, comme l'heure tourne, est-ce qu'il serait possible, avant qu'on passe Sheikha Rimiti, qu'on adore, la grande dame du rail, est-ce que tu voudrais faire écouter aux auditeurs un extrait du chapitre 3, si j'ai bien noté, de votre livre en cours, Le retour du refoulé. Ce chapitre 3, tiens, j'ai pas noté le titre, c'est Rai ? Non, c'est quoi le titre ?
On l'a appelé Hasbea.
Hasbea, tu me l'avais dit.
Hasbea, parce que, en fait, Moha, durant son exil en Algérie, était à Sidi Bel Abbès chez ses grands-parents en Algérie. Et Sidi Bel Abbès, donc en abrégé, les gens la surnomment SBA. Et donc ce chapitre, on l'a appelé Hasbea, parce que le mot Has, ça veut dire en algérien la misère, en fait. Et c'est un mot qui n'est pas utilisé seulement en Algérie, mais qui est très très courant en France.
Bon, alors, je t'ai coupé.
Voilà, ouais. Et donc effectivement, dans ce chapitre, Moha parle du raï, qui est une musique qui est née entre autres à Sidi Bel Abbès et dans toute la région d'Oran en Algérie. Ouais. Et donc il dit, le raï, je vous lis là, le raï c'est un style qui est né dans les souks, les bars, les cabarets, les fêtes de mariage et de circoncision. À l'origine, c'est une musique qui vient des bédouins, des gens de la campagne, les nomades. Le raï c'est un style qui a été inventé par les medhats, des orchestres de femmes. Des femmes célibataires, veuves, divorcées, donc des femmes sans hommes, libres. Elles n'ont pas vraiment une bonne réputation, mais ce sont elles qui font danser les femmes dans les mariages. On peut penser qu'elles sont marginalisées, mais en scred, elles sont grave appréciées. Elles mettent l'ambiance. Les vieilles, les daronnes, les jeunes épouses, les ados, toutes les femmes de toutes les générations raffolent de cette musique. Et il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi. Rai, ça veut dire la rumeur, mais il y a un autre sens. Ndir Rai, je fais ce que je veux. En bon français, je m'en bats les couilles. Vous pouvez penser de moi ce que vous voulez, je fais ce que je veux. J'assume mes paroles, mes actes, ma vie, mes choix. Le raï chante l'amour, les plaisirs, l'alcool, la souffrance, la misère. Il chante la vie, les joies, les peines, les problèmes, les arrangements avec la morale. Il chante les sentiments intimes, les émotions. Il chante la liberté de mener sa vie comme on veut. Sheikha Rimiti, c'est la reine du raï. Tous les chebs et les chebas, les jeunes, l'appellent comme ça. Ils savent tous ce qu'ils lui doivent. Sa mère était de SBA, Sidi Bel Abbès, et son père de Saïda. Elle est née dans un bled près de Sidi Bel Abbès. À l'origine, c'était une danseuse. Elle accompagnait des troupes de musiciens sur les marchés, des troupes nomades, des voyageurs en fait. Sheikha Rimiti s'est mise à chanter sur les marchés, dans les bars et dans les medahats. Elle a inventé son propre style. C'était de la musique vraiment populaire. Bis, bis, remettez, remettez, Rimiti, Rimiti. C'est de là que vient son nom d'artiste. Remete, Cheha Remiti.
Allez, on va écouter Y'en a marre de Cheha Remiti. Merci aux techniciens qui lancent la musique.
آه والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والراي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولا تنسب هيا
Merci beaucoup. Voilà, vous écoutiez Cheha Remiti. Je conseille aux auditeurs. Alors, on avait deux versions avec Laurent hier quand on a préparé l'émission. Moi, on avait un faible tous les deux pour la version que je conseille aux auditeurs d'aller voir sur YouTube au Satellite Café, qui a probablement été un des derniers concerts de Cheha Remiti à Paris au Satellite Café. Voyez, il y en a marre. Elle a deux musiciens à côté d'elle. Et elle est là dans sa petite robe rose avec son petit tambourin, je ne sais pas comment. Voilà. Quelle grande dame
absolument,
du rail.
Ouais,
vraiment. Puis il y en a marre, hein. Il y en a marre que Moa soit en prison.
Il y en a marre.
Et il y en a marre qu'on traite de cette manière-là des étrangers qui font tout pour s'en sortir sur notre territoire. Mais je crois bien que Cheha Remiti parle d'un homme dont elle en a ras-le-bol aussi, hein, il me semble. Voilà.
Possible.
Mais ça marche bien. Et puis c'est une belle chanson féministe en plus, tout pour plaire. Voilà. Et que Moa adore.
Absolument.
Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi. Alors Laurent, on va, voilà, quel privilège aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Aligre. Nous écoutons en avant-première des extraits de votre livre « Le retour du refoulé ». Et là, dans cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser autour du « Casseur de mâchoires ». Ce chapitre que moi j'ai adoré quand tu nous l'as fait lire à l'association. Et là, tu vas nous lire un extrait d'un passage sur qui concerne l'univers carcéral, hein, dans ce chapitre 11, le casseur de mâchoire, le système disciplinaire tel qu'il est vécu par Mora à Fleury-Mérogis, un univers dur, notamment autour du mitard.
Tout à fait. Donc, je crois qu'il y a, c'est pas la peine de commenter. En fait, à l'avance, les auditeurs vont de même comprendre en fait la teneur du chapitre. Donc, c'est un des chapitres en fait dans notre livre qui parle de Fleury-Mérogis. Mmh. Donc, pour Mora, c'est extrêmement dur. C'est un retour en arrière terrible de se retrouver aujourd'hui à Fleury-Mérogis alors que ça fait 11 ou 12 ans qu'il avait quitté Fleury-Mérogis, etc. Ouais. Et de se retrouver dans cette situation qui est comme une régression énorme par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble depuis 5 ans, par rapport à tous les efforts qu'il a accomplis justement pour tourner le dos à l'univers de la délinquance et reconstruire sa vie. Et donc là, les institutions le renvoient en arrière parce qu'en fait, pour eux, pour elles, d'une certaine façon, c'est ça sa place en fait. Et voilà, donc c'est une manière aussi de donner la parole à Mora en lisant en fait ce qu'on a écrit ensemble sur sa manière de décrire l'univers de Fleury-Mérogis, donc il y a de cela plus d'une douzaine d'années, donc ses premières expériences de Fleury-Mérogis.
Alors on t'écoute avec grand plaisir pour cette lecture de 3 pages.
Voilà, c'est un chapitre donc qui s'appelle « Le casseur de mâchoire ».
Ouais, c'est le début.
Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Dans chaque aile, il y a 50 cellules par étage, 25 à gauche et 25 à droite. Sur 3 étages, 150. À chaque étage, il y avait 4 cellules triplettes, c'est-à-dire de 3 détenus, et 2 cellules individuelles. Le reste, ce n'était que des cellules duo qu'on partage avec un co-détenu. Dans chaque bâtiment, il y a 3 ailes. Dans celle du milieu, on mettait ceux qui travaillaient dans les ateliers. À gauche et à droite, c'étaient les détenus qui ne foutaient rien. Dehors, je ne travaillais pas. Alors pourquoi je travaillerais à l'intérieur ? Il y avait un surveillant pour chaque aile. Au 4e étage du bâtiment D2, c'était le quartier des détenus qu'on met à part pour les protéger des autres. D'un côté, les travelots et les homos. De l'autre, la zone VIP pour les célébrités. Le Corse Ivan Colonna était là lors de ma première incarcération en 2003. Il était dans la cellule juste au-dessus de moi, au 4e étage du D2. Les gars disaient « Regarde, regarde, c'est Ivan Colonna !» C'était une star. Il avait beaucoup de soutien parmi les Corses. Il avait une triplette pour lui tout seul, avec 2 cellules qu'ils avaient réunies en une seule en abattant le mur. Au bâtiment D5, le 4e étage était spécialisé pour le quartier, pour le mitard et l'isolement. 2 ailes pour le QD, quartier disciplinaire, et une aile pour le QHS, le quartier haute sécurité, pour les DPS, les détenus particulièrement surveillés. L'administration pénitentiaire adore les sigles comme toutes les administrations, manière de cacher la violence derrière le langage bureaucratique. Le mitard, c'est un trou à rat. Les chiens dans les chenils sont mieux traités que les détenus au quartier disciplinaire. C'est crasseux, sombre, sordide. Il y fait froid, pas de fenêtre, donc pas de possibilité de communiquer avec les cellules voisines. Double porte, une grille. Des chiottes turques. En pleine nuit, des rats sortent par là. J'y ai été 2 ou 3 fois. La première fois, c'était pour le pilon. Lors de mon incarcération en 2006, en revenant d'une permission de sortie, j'avais été attrapé avec une barrette de shit dans ma basket. 15 jours de mitard. La deuxième fois, c'était pour insultes et menaces à surveillants. Si tu parles mal au surveillant, c'est le mitard. Tu lui dis « fils de pute », 3 jours. Fils de pute enculé, dès que je vais sortir, je vais niquer ta grand-mère. 15 jours. Une tarte, 30 jours. Si tu le cognes, c'est 45 jours, puis le prétoire. Un conseil de discipline devant le directeur. Ils peuvent t'envoyer au tribunal, rallonger ton temps de peine, t'éloigner de ta famille, te mettre à l'isolement. J'avais insulté le surveillant, j'avais pris 15 jours de mitard. Les matons qui travaillaient à cet étage étaient spéciaux. C'était des gars balèzes, des gros gabarits, histoire de faire peur, d'impressionner les détenus. Il y en avait peut-être 1 sur 10 qui étaient corrects. À 90%, c'était des fils de pute. Des surveillants racistes, fachos. Ceux qui militaient au Front National se faisaient affecter au mitard pour prendre plaisir à maltraiter les détenus. Ils les provoquaient, lançaient des piques. « Ouais, tu fais ça chez toi en Algérie ?» C'était toujours de la domination, des humiliations. « Tu te plains? T'es pas bien traité ici? Tu serais bien en prison dans ton pays ?» Dès qu'un mec leur répondait mal, ils en profitaient pour se lâcher. S'ils en avaient envie, ils le ramenaient dans une cellule, le foutaient à poil et le laissaient comme ça pendant 24 heures. Ou bien ils venaient à plusieurs et le tabassaient. Il y a plein d'histoires comme ça. Beaucoup de mecs se sont suicidés au mitard. Certains détenus comme moi ont la tête dure. Ils sont coriaces, ils ne se laissent pas démonter. J'avais 15 jours de mitard à faire, j'assumais. J'allais tout faire pour les passer tranquillement. Après la gamelle du soir, je me mettais à bouquiner jusqu'à ce qu'ils éteignent la lumière. Quand il faisait noir, on entendait des cris, des gémissements. C'était un ouf, un mec qui sortait de l'hôpital psychiatrique, un mec qui craquait, qui pétait un câble, qui ne supportait pas le mitard. Il se mettait à appeler les gardiens, à pleurer, à se cogner la tête sur la porte. Les autres gueulaient pour lui dire de se taire. « Putain, ferme-la, connard ! Calme-toi, mec ! Fils de pute, on a besoin de silence ! C'est pas fini ce boucan, on veut dormir, merde !» Ça criait de partout dans le quartier disciplinaire. Dès que les matons se pointaient, le gueulard se taisait. Le silence revenait. Ou bien, il continuait à faire du raffut jusqu'à ce que les surveillants entrent dans sa cellule. Parfois, on entendait les matons le battre. Bruit de coups, cris de douleur, insultes. Puis le calme revenait. Il y avait des mecs au mitard qui faisaient du bruit, mais pas pour rien. Rien ne leur faisait peur, comme le casseur de mâchoires. C'était des mecs que je respectais à mort. Je les respecterai jusqu'à la fin de mes jours. Il faut connaître leurs histoires, savoir pourquoi ils sont ouf comme as. Ces mecs-là, tu ne les rencontrais jamais. Ils étaient isolés, coupés du monde. Mais il arrivait un jour où ils te racontaient.
Voilà, alors là, extrait du début du chapitre « Le casseur de mâchoires », chapitre 11 de l'ouvrage que Moha et Laurent Bazin, ici présents, écrivent de concert. Moi, je suis surprise, tu nous disais tout à l'heure la manière dont, dont vous écriviez tous les deux. Donc, tu prends la parole de Moha, tu la remets en forme, tu fais une espèce voilà, de montage, de collage, de déplacement, etc. Et ce que j'apprécie moi énormément, c'est que la voix, enfin malgré tout, c'est pas une langue qui est trop lisse, c'est une langue qu'on entend un vrai parler, un franc parler. Je trouve que c'est chouette que la langue dans laquelle vous écriviez ne soit pas lissée et qu'on y reconnaisse quelque chose comme une intonation d'un monde, d'un milieu. Voilà, j'étais très frappée par ça.
C'est un livre à deux voix, en fait. Ouais. C'est un livre à deux voix, donc et chacun de nous parle avec ses propres mots, son propre langage. Donc moi, je parle avec mon langage de scientifique et d'anthropologue, et Moha parle avec son langage de la rue, d'une certaine façon.
Et là, c'est frappant ce langage est fort et abrupt et nécessaire dans ce milieu carcéral.
Voilà, tout à fait. Mais Moha décrit très très bien, donc c'est évidemment pas le seul extrait, mais il décrit très très bien en fait l'univers de la prison, tout le cloisonnement, tout le système disciplinaire, en fait le système de domination à l'intérieur de la prison, et comment les gens, en fait, finalement, malgré toutes les entraves, malgré tous les cloisonnements, ou des fois grâce au cloisonnement, comment les gens arrivent à communiquer entre eux.
Absolument. Alors, on passe à la lecture d'un deuxième extrait.
Tout à fait. Donc, entre-temps, donc, je résume un petit peu le propos. Chapitre, donc, ce qui suit après ce petit passage qui se termine par « Il arrivait un jour où il te racontait », Moha décrit en fait un moment où il va à l'hôpital, donc il a un problème au genou, il est emmené par les gardiens à l'hôpital pour une consultation médicale. Et donc il décrit, donc pour sortir de la prison, aller à l'hôpital, il passe dans un lieu qui s'appelle le dispatching. Et donc on va voir ce que ça veut dire. Et donc il va à l'hôpital, il est entravé, menotté, entravé. Et c'est comme ça que les gardiens l'emmènent à l'hôpital. Et il décrit toute l'humiliation en fait de passer devant tous les gens à l'hôpital qui le regardent avec des yeux ronds, avec ses entraves, etc. Comme si c'était un fauve. Et ensuite...
Et le médecin lui réserve au contraire des matons, un très bon accueil, et demande aux policiers de sortir pour pouvoir examiner Mora et son problème au ménisque. Hein. Ça, c'est un très
voilà,
beau passage.
Tout à fait. Et ensuite, et là, je te laisse lire la suite.
Voilà, ce que je vais lire, c'est donc la suite de, et la fin de ce chapitre 11, après le passage de Mora chez le médecin. Retour de l'hôpital avec les menottes et les entraves. En entrant au dispatching, j'ai été fouillé à poil. Puis ils m'ont mis dans une cellule d'attente avec des barreaux. C'est là que j'ai eu l'honneur de faire connaissance avec le casseur de mâchoires. J'ai croisé toutes sortes de mecs au dispatching. J'ai causé avec des tas de types que je n'ai jamais vus. On se parlait de cellule à cellule. La prison, c'est l'attente, l'attente, l'attente. À chaque fois que tu dois être transféré quelque part, on te met en attente dans une cellule. Et tu croises des mecs qui viennent de partout. Il y a les arrivants, les sortants, les transferts, les retours de perme. Tu parles avec eux. La première question, c'est « Tu es dans quel bâtiment ?» En fait, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français. On commençait « Tu parles français ? Tu es dans quel bâtiment ?» D3, D4. « T'es là pour quoi ? Pour ci, pour ça. T'en as pris pour combien ? Tu connais un tel ?» « Ouais, je le connais, c'est un mec cool. Et toi, tu connais machin ?» Parfois, c'était des mecs sous mandat de dépôt, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore été jugés. D'autres attendaient leur transfert pour un centre pénitentiaire, une prison pour les grosses peines. Certains étaient là pour une semaine, pour 24 heures, ou au contraire pour 20 ans. Tout le monde passe par Fleury avant d'être affecté ailleurs. Bois d'Arcy, Nanterre, Fresnes, La Santé, ou plus loin. L'endroit où on les voit dépend d'où ils habitent et de leur environnement. Ce jour-là, c'était le casseur de mâchoires qui était dans la cellule d'à côté. Lui aussi en attente. Je ne savais pas que c'était lui quand j'ai engagé la conversation à travers le mur. « Wesh, ça va, cousin ?»« Non, la vérité, ça ne va pas, frère. » Un surveillant nous a entendus. Il est venu devant ma cellule et s'est mis à chuchoter à travers la grille pour ne pas que l'autre entende. Il avait peur. Le maton, « Psst, hé, psst, c'est interdit de parler avec lui. »« Quoi, ça ne va pas, non ?» Et le casseur de mâchoire. « Il t'a dit quoi ? Il m'a dit que c'est interdit de parler avec toi. Quoi ? C'est quel surveillant ? C'est qui ? Depuis quand c'est interdit de parler avec moi ?» J'étais en train de me faire un ouinge, il me fallait une feuille. Je me suis tournée vers le mec qui était avec moi dans la cellule. « Wesh, t'as pas une feuille à rouler ?» C'était un cum qui ne parlait à personne. Il avait la haine, une putain de rage. On sentait la haine assise à côté dans la cellule, un truc de ouf. Alors, en fumant mon joint, je discutais avec le casseur de mâchoires. Il m'a raconté avec sa voix grave depuis la cellule d'à côté. Il était en transfert pour un jugement parce qu'il avait cassé la mâchoire d'un chef surveillant. On l'appelait le casseur de mâchoires parce qu'il cassait les mâchoires des matons, des chefs, des directeurs, des gens importants, des keufs genre Robocop, ERIS, BRI, GIGN, BAC. Il ne s'attaquait qu'à eux. Il s'en battait les couilles. Il avait été condamné à 6 mois, mais ça faisait 4 ans qu'il était là. Il s'en prenait encore parce qu'il cassait des gueules. C'était un mec qui ne blaguait pas. Il racontait qu'il n'était pas d'accord avec l'administration pénitentiaire. Il parlait de toutes les injustices qu'il y avait à l'intérieur. Il lui avait fait de sales coups. Et c'est vrai, on fait de sales coups à des mecs comme ça. On le transfère de prison en prison pour qu'il devienne dingue. L'administration fait tout pour que le mec pète les plombs. Le but, c'est de briser les gens mentalement. À mort. Ils ne peuvent pas le tuer. Eh bien, ils vont le détruire moralement. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. Le gars est en tôle, enfermé. Au début, il est tombé pour une petite peine, 6 mois. Il voit qu'à l'intérieur, on le maltraite. Il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas marcher dessus. Paf ! Il cogne un surveillant. Il prend 1 an. Il fait sa peine. On ne le laisse toujours pas tranquille. On le cherche. Paf ! Il cogne le chef. Il est transféré au tribunal. 24 mois. 13 mois plus tard, il rencontre le directeur de la prison avec son avocat. Il le cogne. Il prend 3 ans. Il va passer toute sa vie là. Maintenant, il a l'habitude. La vie extérieure ne lui dit plus rien. Il a tout perdu. Sa famille, ses potes, sa meuf, ils lui ont fait tout perdre. Ça ne lui dit plus rien. Il est à l'intérieur maintenant. C'est là qu'il continue sa vie. Il y a encore quelques personnes qui viennent le voir, quelques potes qui tiennent vraiment à lui. Car quand on est en tôle, on sait vraiment qui est vrai et qui est faux à l'extérieur. Les gardiens lui donnent un parloir avec un hygiaphone. Ils lui collent une vitre pour lui foutre la haine. Des fois, ils le privent de repas pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas le droit, mais ça ne les gêne pas. Là, c'est la solidarité entre détenus. Les mecs admiratifs lui envoient de la nourriture, des plats tout prêts avec le yo-yo. Sauf quand il est au mitard ou à l'isolement. Comme il n'y a pas de fenêtre, on ne peut rien faire passer. Il est en prison comme ça. Il a tout perdu. Dans sa tête, il s'est programmé. Je suis entré pour 6 mois, ça fait 4 ans que je suis là. J'en ai encore pris pour 8 ans, qu'est-ce qui reste à faire? Il n'y a plus rien à faire à l'extérieur. Il a la haine. Envers qui? L'administration pénitentiaire, le ministère, les juges, les procs, les directeurs, les chefs, les matons, les keufs. Il se fait transférer de plus en plus dans des prisons. Pour le rendre dingue, on l'éloigne de sa famille. Il a fait toutes les prisons de France. Alors, il a la haine. Il se consacre à un truc définitivement: casser les mâchoires aux matons, chefs, agents de l'administration, tout ce qui représente la prison et l'État. Il a des connaissances, de grosses têtes, des GB, grand banditisme. Mais les autres détenus, il n'en a rien à foutre. Il ne fait pas attention à eux. Pour lui, ils ne sont rien. Ce sont des rigolos, des bolos. Il ne voit jamais personne, de toute façon. Mais tout le monde dans la prison sait qui il est. Sauf les nouveaux, qui sont de passage, qui ne sont là que pour quelques mois. Tous les détenus le respectent énormément. Zarma, genre le lion qui sort de sa cage. Dans toutes les prisons où il passe, c'est l'isolement en quartier haute sécurité. Beaucoup de mitards, isolement, mitard, isolement, mitard. La haine grandit. Il est là, enfermé avec sa haine de l'administration pénitentiaire. Au mitard, il a une promenade individuelle, un espace de 10 mètres carrés, entouré de grillages et de barbelés, une cage surveillée par des caméras. On lui dit « Tu es au mitard jusqu'à ce que tu te tiennes tranquille ». Le mitard, c'est 45 jours au maximum. Au-delà, ils n'ont pas le droit. Le mec se tient tranquille. En fin de compte, il s'arrange avec le directeur. Il a quand même une petite intimité avec l'administration parce qu'ils savent comment il est. Un lion dans sa cage. Il casse les mâchoires des surveillants. Ils ont peur de lui. Alors, ils essaient de composer, de le comprendre, de l'écouter parce qu'ils n'en peuvent plus, eux non plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de lui? Le transférer de zonze en zonze? Isolement, mitard, isolement, mitard? On le sort de l'isolement. On le descend d'un étage avec les autres détenus. Il se retrouve dans la promenade collective avec tous les mecs. Fin de promenade. En rentrant dans sa cellule, il rencontre un surveillant stagiaire, raciste. Le maton lui parle mal. Ça part en couille. Il retourne au mitard. On le ressort. On l'envoie dans une nouvelle cellule. Le casseur de mâchoires est avec son gros paquetage. Le surveillant ouvre la porte. Au moment d'entrer dans la cellule, il remarque un truc. Il s'arrête. « Non, je ne rentre pas. » Le surveillant l'appelle par son nom. « Rentre dans ta cellule, machin. »« Ah non, c'est monsieur, machin. »« Ok, monsieur, machin. »« Veuillez entrer dans votre cellule, s'il vous plaît. »« Je ne rentre pas. » Appelle le chef. Le chef arrive. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne rentre pas dans la cellule. Il y a des puces dedans. » Il a cramé qu'il y avait des puces dans la cellule. Ça fait 4 ans qu'il tourne dans toutes les prisons de France. Il connaît le chef. « Comment on va faire ?» « Ben, je veux une cellule où il n'y a pas de puce. Je ne veux pas de puce, moi. C'est tout. Je veux rentrer dans une cellule où c'est propre. » Au bout d'un moment, il dit « Ok, c'est pas grave. » Il entre dans la cellule. Le surveillant ferme la porte. Dans son paquetage, le casseur de mâchoire sort de l'huile. Il commence à cogner dans la porte. Boum, boum, boum. Ça fait un boucan de ouf. Tout le monde entend. Il enlève tous ses habits, même son calbar. Il se fout à poil, puis commence à s'enduire tout le corps d'huile. Il continue à donner de gros coups de latte dans la porte en s'aspergeant le corps d'huile. Boum, boum, boum. Ça résonne dans tout le bâtiment. Il place un briquet dans la paume de sa main et s'entoure le poing d'un bandage. Clac, 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 clac. Ce sont les Robocop qui arrivent en courant. Ils sont au moins une dizaine avec casque et matraque. Il les entend arriver. Il verse le reste d'huile à l'entrée de sa cellule et se recule de 3 mètres. Il attend, à poil, plein d'huile, les poings bandés. Les Robocop ouvrent la cage au lion. « Je vous attends. Vous venez ou pas, bande d'enculés ?» Il se rue à l'intérieur, glisse, se casse la gueule. Avec ses pieds, il éclate les viscères de ceux qui sont tombés. Les autres essaient de l'attraper à 3, à 4, mais lui, il glisse, il n'y arrive pas. Il leur met des patates, des coups de boule, il les fait dégager à coups de pied. Il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre, gauche, droite, coup de genou dans les burnes, coude dans les côtes, paf, paf, bing, bam, ouï, aïe, fils de pute, bâtard, sale négro. Tout le monde entend dans le bâtiment. Les Robocop tentent de l'attraper, mais ils ne réussissent pas. Ils continuent à frapper. Alors, il lui tombe dessus à 10. Il le mêle pour parvenir à se maîtriser, à le maîtriser. Le casseur de mâchoire, c'est la haine envers l'injustice. C'est le refus des mauvais traitements. À chaque fois que quelque chose ne va pas, il ouvre sa gueule. L'administration pénitentiaire n'aime pas les gars qui se révoltent. Il lui envoie les Robocop. À chaque intervention des Robocop, mitard, prétoire, tribunal, jugement, rajout d'une peine, transfert dans une autre prison, QHS, isolement. L'étiquette DPS le suit. Attention, chien méchant. Le casseur de mâchoire ne se plie jamais. Il encaisse la violence pénitentiaire. Il la renvoie au maton, en pleine gueule. Il se rebiffe. Il se révolte à la place des suicidés, ceux qui retournent contre eux la violence du système carcéral. Magnifique.
Oui.
Magnifique écrit.
Et c'est drôle aussi.
Et c'est drôle.
Il y a des passages très drôles.
Ouais, moi je l'ai lu de manière un peu. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de tragédie, mais la première fois que je l'ai lu, je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai ri. Enfin, c'est. Voilà, cette espèce de résistance avec simplement de l'huile sur le corps et jetée au sol de la prison. C'est absolument pas un tire-jus. C'est pas du tout cette espèce de vulnérabilité, d'espèce de pitié qui est suscitée là dans l'écriture et dans ce que vous racontez. Mais c'est au contraire une grande puissance d'agir, une grande force de liberté de ce casseur de mâchoire dont on voit qu'il est noir et que probablement il terminera sa vie en prison, mais qui refuse de fermer sa gueule, comme nous le disait Maura la dernière fois.
Oui, et c'est un peu c'est un peu la morale de l'histoire.
Ouais.
En fait, ce chapitre, il a presque la dimension d'une fable, d'une parabole en quelque
ouais.
sorte. C'est-à-dire avec la conclusion morale attachée aux fables, par exemple. Donc ici, en fait, et c'est pour ça qu'on a tenu à le lire derrière, en parlant aussi de Shahar Emiti,
ouais.
c'est aussi tout l'esprit de Ndiraï, je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, je m'en fous, donc je suis libre. Quoi qu'il m'en coûte, en fait. Et c'est un peu ça la leçon de cette histoire. Le prix à payer pour être libre, paradoxalement, dans le système carcéral.
Ouais.
Donc pour être libre et pour garder son honneur, le refus de se soumettre, en fait. Le refus de se soumettre à la domination et le refus de se soumettre à la discipline, etc. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise aussi, en fait, d'une certaine façon, toute la vie de Maura, toute son histoire. C'est ça qu'il décrit aussi dans sa période de jeunesse délinquante, etc. C'était face à ces institutions, en fait, qui le prennent comme un jouet, qui le trimballent par-ci, par-là, etc. On va l'enfermer dans un centre d'hébergement pour réfugiés, on va l'enfermer dans un centre pour mineurs, dans un foyer pour mineurs, etc. Toute cette emprise institutionnelle, en fait, d'une certaine façon, Maura a toujours résisté contre, et sa jeunesse délinquante, c'était aussi une façon de se révolter, en fait, contre cette emprise institutionnelle qui est énorme.
Absolument.
Et il en a payé le prix, en fait, toute sa vie, comme le casseur de mâchoire en paye le prix. C'est-à-dire que le prix, c'est des brimades continuelles, c'est de la prison, etc.
Ouais.
Enfin, c'est tout ce système d'exclusion, en fait, qui se met en place et voilà, et ça caractérise aussi, on pourrait dire, des dizaines de milliers de personnes dans ce pays.
Tout à fait. Eh bien, voilà, l'émission va se terminer. Merci beaucoup à Laurent Bazin d'être venu, de nous avoir fait lire en avant-première voilà, l'ouvrage Le retour du refoulé, qui est en cours d'écriture.
Voilà. Il n'est pas terminé.
Voilà, mais on a eu de très beaux extraits, très prometteurs.
Mais il sera très bientôt terminé.
Voilà, et puis tu reviendras en reparler avec Maura, que l'on embrasse depuis, voilà. On lui fait des gros bisous là où il est, en cellule. On pense bien fort à lui et on invite tous les auditeurs de Radio à lire de réécouter la première émission en podcast qu'on avait faite avec vous, le Paria, et la seconde, donc celle-ci, qui va être mise en ligne. Je remercie chaleureusement encore une fois de plus nos trois techniciens qui ont été là, Lucas, Tanguy, Geoffroy, et je dis aux auditeurs de Radio Aligre, eh bien, à dans 15 jours. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci beaucoup,
merci Laurent, au revoir.